Donc après avoir eu des présentations de cas, nous ouvrons le débat d'abord en invitant deux discutants à mettre en perspective finalement les propos qui vous ont été tenus ce matin. Donc pour ce faire, nous avons deux spécialistes. Après leurs interventions, je céderai la parole à la salle et donc vous serez les bienvenus pour poser toutes les questions qui n'auraient pas été éclairées par les différentes interventions. Eh bien, après ces deux discussions. Donc, nos deux discutants sont d'une part le professeur Robert Jacob, qui est directeur de recherche au CNRS et professeur d'histoire du droit à l'Université de Liège, spécialiste de l'histoire de la justice médiévale, et le professeur Thomas Berns, qui est professeur de philosophie politique à l'Université libre de Bruxelles. Je cède la parole au professeur Robert Jacob. Merci.
Merci beaucoup d'avoir rappelé brièvement mon itinéraire, qui est un itinéraire d'historien de la justice médiévale, qui m'amène à considérer qu'il n'y a pas, à propos du thème qui est celui non seulement de ce colloque, mais de cette matinée, qu'il n'y a pas d'un côté la justice et le procès, et de l'autre côté la vérité religieuse ou scientifique, mais que la justice elle-même, l'institution judiciaire, la procédure, sont des constructions religieuses. Hein, ce que rappelle dans nos prétoires la robe du juge, qui n'est après tout qu'un dérivé de la soutane. Donc le regard que je vais poser sur le sujet d'aujourd'hui est un peu une prise à revers. En partant, bien entendu, de mon expérience de médiéviste, qui m'amène à considérer qu'un moment cardinal de notre histoire judiciaire a été la formation au XIIe siècle de deux systèmes de procédures qui se sont constitués d'une certaine façon l'un par l'autre et en opposition, schématiquement civil law d'un côté et common law de l'autre. C'est plus facile de le dire en anglais que de trouver des équivalents français. Civil law, c'est au départ la procédure de l'Église, qu'on appelle la procédure romano-canonique, qui va se communiquer aux différents États, d'abord à la France et puis ensuite à tous les États de l'Europe continentale. Common law, c'est une des procédures en usage dans l'Angleterre médiévale, qui a pu passer longtemps pour une espèce de citadelle assiégée qui allait tomber d'un moment à l'autre, mais la citadelle en réalité a toujours surnagé, et le système de procédure aujourd'hui non seulement survit, mais s'est diffusé avec l'influence mondiale que nous connaissons. À propos de l'opposition civil law, common law, Antoine Garapon employait des termes comme modèle clérical d'un côté, un modèle clérical, modèle dont nous sommes tous les héritiers à travers le droit français, à travers le droit belge, à travers notre formation juridique, modèle sacramentel pour les pays de common law. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ce serait évidemment l'objet d'une très longue réflexion, et je ne vais pas évidemment seulement l'initier ici, puisque mon propos est de réagir aux communications que nous venons d'entendre, mais je voudrais simplement prendre comme axe de réflexion la question suivante : est-ce que une question de métaphysique ou de philosophie ou de science, sachant que au fil de l'histoire, les frontières qu'on peut placer entre la métaphysique, la philosophie et la science, non seulement sont susceptibles de se déplacer, mais n'ont jamais cessé de se déplacer. Est-ce qu'une question de cet ordre, de métaphysique, philosophie, science, peut être traitée, peut faire l'objet du débat judiciaire ? Est-ce qu'on peut demander à un juge de la trancher ? En d'autres termes, est-ce que cette question est justiciable ? Et je vais vous faire une proposition de réponse qui aura le mérite de la clarté. Alors évidemment, il faudra probablement la nuancer par la suite, mais partons d'une position tranchée. En civil law, non. En common law, oui. Je m'explique. le système de procédure dont nous sommes les héritiers apparaît dans la deuxième moitié du XIIe siècle. Il se forme très rapidement entre 1150 et 1180 dans les cours d'église qui sont à ce moment-là pilotées et conduites de très près par des papes qui sont de grands juristes. Et il est caractérisé par la procédure d'enquête. Mais cette procédure d'enquête, elle a un fondement religieux qui est d'une certaine façon paradoxal. Parce que si Dieu est un juge parfait, c'est entre autres parce qu'il est omniscient. Il n'y a aucune vérité qui lui échappe, il sait tout, et c'est d'ailleurs parce qu'il sait tout qu'il est un bon juge. Or, la procédure canonique repose sur la répudiation de l'omniscience. Pourquoi faut-il enquêter ? Parce que, et là les canonistes ont dû tout de même se donner beaucoup de mal pour aller chercher la référence scripturaire qui convenait à la pratique qu'ils voulaient mettre en place, parce que Genèse 18-21, c'est la clé de l'affaire, c'est l'histoire de Sodome et de Gomorre. Un cri s'élève contre Sodome, dit la Bible, et que fait Dieu ? Ben, évidemment, il savait très bien ce qui se passait à Sodome, on n'avait pas besoin de lui expliquer, puisque par définition, il est omniscient. Mais là, il dit, je vais descendre à Sodome et je vais me renseigner sur ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu, en quelque sorte, a abandonné son omniscience pour se faire enquêteur. Et la juridiction ecclésiastique se constitue comme ceci, ce qui la conduit schématiquement à mettre en place trois niveaux de savoir. Le pape étant le grand juge, le juge par définition suprême de l'Église, il sait beaucoup de choses, mais ces choses doivent être classées. Il y a, je schématise, niveau 1, il y a tout ce que le pape sait ex certa scientia, tout ce qui se rapporte à Dieu, tout ce qui se rapporte à l'ordre du monde, tout ce qui est posé par le dogme, mais aussi tout ce qui relève du droit. Le droit canonique, dans la perspective ecclésiastique, ce n'est jamais qu'un prolongement de la théologie morale. Premier niveau de savoir. Deuxième niveau de savoir, il y a tout ce que le pape sait parce qu'en tant que chef de l'Église, il est en rapport avec tous ses membres. Il est en correspondance constante avec des évêques, des abbés qui lui font part d'un certain nombre de problèmes. Donc la chancellerie pontificale est un lieu où on sait beaucoup de choses. Mais lorsqu'il y a un conflit, c'est-à-dire lorsque précisément deux évêques ou un évêque et un abbé entrent en conflit et que le pape est institué juge, troisième niveau, eh bien là, il y a un parti pris d'ignorance. Le pape ne peut tenir aucun compte de ce qu'il savait avant. Il y a une vérité judiciaire qui doit émerger, mais cette vérité judiciaire, c'est ici que le modèle de l'enquête à Sodome intervient, cette vérité judiciaire, elle est constituée par une procédure. Bon, je cite principalement l'enquête, mais enfin, il y a toute une hiérarchie des preuves qui se met en place. Ben, la hiérarchie des preuves qui est encore la nôtre, qui est encore celle du Code civil, est dérivée de celle qui se met en place à ce moment-là. Il y a une enquête contradictoire très rigoureusement définie dans ses formes et qui doit aboutir à définir une vérité judiciaire comprise comme vérité factuelle. C'est-à-dire que le système romano-canonique conduit à une distinction rigoureuse du droit d'un côté et du fait d'autre part. Il conduit à un véritable culte et à certains égards à une obsession de la distinction du droit et du fait qui amène à comprendre la vérité comme une vérité factuelle. Et nous en sommes tous imprégnés hein, parce que nous sommes tous les héritiers de ce modèle clérical, et il faut donc un certain effort pour se rendre compte que lorsque nous sortons des systèmes judiciaires que nous connaissons, là ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que la distinction du droit et du fait, ce n'est pas du tout une donnée élémentaire de la conscience, il suffit de prendre un écart culturel pour se rendre compte que ça ne marche pas. L'intervention relative à la Sierra Leone nous amène à ce qu'on appelle les mentalités magico-religieuses. Alors excusez-moi, vraiment j'ai l'impression de conceptualiser à la grande serpe ici. Des mondes qui ont des rapports entre la norme et la réalité sociale qui se positionnent de manière tout à fait différente sans cette distinction du droit et du fait. Bon, il y a des procédures archaïques fondée en ordre principal sur le serment, l'ordalie, etc., qu'on retrouve dans l'Afrique, dans toute l'Afrique, ou qu'on retrouvait dans l'Occident du très haut Moyen-Âge, qui repose sur de tout autre principe. Bon, vous me pardonnerez peut-être de ne pas m'attarder sur cette question. Simplement, en réalité, cette distinction du droit et du fait, on ne la retrouvera pas en common law, hein, où elle n'a jamais joué un rôle structurant. Je vais y revenir par la suite. L'intervention de M. Ricci nous amène à illustrer ce propos à partir de la question de l'hérésie. C'est-à-dire, dans la question de l'hérésie, ici mise en évidence avec le procès de Giordano Bruno, nous avons une définition de l'hérésie qui est une définition qui relève du dogme, qui est une définition qui relève, dans les trois niveaux que j'ai distingués, qui relève du niveau 1 de savoir. Et en fait, l'inquisiteur, c'est, comme son nom l'indique, un enquêteur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'occupe normalement de vérifier la réalité de l'hérésie, de vérifier si les faits entrent dans une qualification préétablie. Donc, est-ce que celui qui est inculpé dans les procès d'hérésie les plus courants, est-ce qu'il a fréquenté des hérétiques, est-ce qu'il a participé à tel ou tel rituel, est-ce qu'il professe telle ou telle idée, etc., etc. Mais il arrive évidemment qu'à l'occasion d'un procès, et ce sera le cas du procès de Giordano Bruno, il arrive qu'à l'occasion d'un procès se pose la question de droit, hein, la question de droit que l'on distingue toujours soigneusement dans notre tradition des questions de fait. C'est-à-dire, est-ce que réellement Giordano Bruno a bien dit ce qu'on lui impute, et puis surtout, est-ce que ce qu'on lui impute tombe bien sous les qualifications de l'hérésie, et dès lors, on remonte à la scientia certa de l'Église, à la science certaine de l'Église. Est-ce que l'Église est bien sûre? Est-ce qu'il n'y a pas des zones d'incertitude? Est-ce qu'à côté de l'absolument certain, il ne faut pas faire la place du probable? Et est-ce que le probable n'est pas permis, même si l'Église ne le recommande pas? C'est comme ça que va surgir la question. Seulement, je crois que ce qui est important de souligner, c'est que cette question ne relève pas du juge en tant que tel. C'est-à-dire que le magistère pontifical qui intervient dans le procès de Giordano Bruno est une autorité de type législatif, on peut dire ça. C'est-à-dire que le pape intervient pour fixer une doctrine qui peut être à certains moments flottante, et la question est de savoir évidemment s'il le fixe ex nunc ou ex tunc, et donc quelles en seront les conséquences. Bon, dans le système ecclésial, on ne peut pas concevoir d'indépendance du juge, c'est-à-dire que le juge est absolument subordonné au magistère pontifical, mais les deux fonctions sont parfaitement distinctes. Si je transpose ce genre de procès, l'affaire Giordano Bruno, si on veut, si je transpose ce genre de procès à l'expérience que nous pouvons avoir dans les droits laïcs et étatiques, sachant que c'est le même système de procédure qui fonctionne, en réalité, je crois que nous avons un cadre d'analyse qui a été défini assez récemment par des sociologues et des historiens français qui ont pas mal plancher sur cette question, et ce qu'ils ont appelé la forme affaire. Hein. La forme affaire, enfin bien connue par les travaux de Luc Boltanski, Nicolas Offenstadt, Elisabeth Claverie, qui est des nôtres aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire qu'effectivement, à l'occasion d'un procès, il peut se produire une question de philosophie qui soudain émerge, une grande question de société. Et cette question de société peut être débattue à l'occasion du procès, et ce débat peut évoluer vers une mutation institutionnelle majeure. Bon, je m'en tiens ici à deux exemples. Alors, un exemple très, très contemporain, c'est la question de la peine de mort dans la France des années 70 et avant l'abolition de 1981. Bon, il y a une série de procès célèbres où la légitimité de la peine de mort a été systématiquement mise en question, notamment par les plaidoiries de Robert Badinter qui ont été très puissamment relayées par la presse. Ça a fait débat, ça a entraîné une division de l'opinion. Il est clair que tous ces procès d'assises permettaient de poser une question de droit qui est également une question de philosophie fondamentale. Est-ce qu'un pouvoir humain a le droit de donner la mort? Ce ne sont pas les cours d'assises qui ont tranché la controverse, c'est la loi française d'abolition de 1981, et personne ne confond ce que Robert Badinter a pu plaider en tant qu'avocat, ce que les cours ont décidé, et ce que la loi française a décidé à un moment donné. C'est le législateur, comme dans le modèle ecclésial, c'est le législateur qui, en dernière instance, tranche la question de philosophie. Alors, l'autre exemple, cette fois-ci, me permet de revenir vers l'histoire longue, vers la longue période. C'est ce que j'appellerais la question de l'autre. La question de l'autre, c'est celle qui est posée par la découverte par les Occidentaux à partir du XVIe siècle, la découverte d'autres mondes, l'Amérique, l'Afrique, et donc la découverte d'autres peuples, la découverte d'autres gens qui ne vivent pas comme les Européens, et qu'en faire, quelles relations établir avec eux, est-ce que ces gens sont vraiment des hommes? Alors, nous retombons sur la question de la vérité, posée en termes de vérité des espèces, avec la question darwinienne, et on n'est pas si loin, même si on n'est pas dans le même registre, la question de savoir si la tomate est un fruit ou un légume. Il s'agit de savoir ce qu'est une espèce. Est-ce qu'ils ont un corps et une âme? Si oui, est-ce qu'ils sont des sujets de droit? Et est-ce qu'il est permis de les réduire en esclavage, par exemple, ou de les convertir de force, ou non? Avec une série de décisions, si je prends en la survolant l'histoire de l'Europe continentale, avec une série de décisions qui se déplacent de la théologie vers le politique, avec quelques temps symboliques très forts, la controverse de Valladolid, qu'on connaît, 1550-1551, est-ce qu'on a le droit est-ce que la question de savoir si les Amérindiens sont des hommes, celle-là est tranchée par le pape, d'ailleurs, à l'époque, mais est-ce qu'on a le droit de les convertir de force? C'est l'objet de la controverse. En France, le Code noir de 1685, l'esclavage réhabilité au nom de la nécessité de diffuser le christianisme, y compris par la manière forte, la Déclaration des droits de l'homme, évidemment, qui va en sens inverse, et puis l'abolition. Mais la question de l'autre est toujours soumise, en dernière instance, aux théologiens ou aux politiques. Alors, si je me tourne maintenant vers la common law, je découvre un tout autre paysage. Et étant historien du Moyen-Âge, je reviens toujours aux sources, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au XIIe siècle. Ce qui s'est passé au XIIe siècle, c'est que le phénomène constitutif de la procédure romano-canonique, c'est-à-dire la répudiation de l'omniscience divine, on suit un modèle divin, mais on suit le modèle d'un dieu qui a choisi de n'être pas omniscient. Cette répudiation n'a jamais eu lieu dans le système de common law. Qu'est-ce que c'est qu'un jury? Un jury, historiquement, c'est un substitut de l'ordalie. On peut le montrer aussi bien en faisant l'histoire de la procédure pénale anglaise que l'histoire de la procédure civile. Il y a littéralement un transfert entre la manifestation immanente de la justice divine qui dit le bien et le mal dans le procès à travers le rituel ordalique et le verdict, c'est-à-dire la parole de vérité qui tombe du ciel, mais même si elle n'est jamais que la parole de 12 hommes qui ont été choisis en principe au hasard et qui ont simplement juré d'écouter leur conscience. Et du coup, ce mécanisme devient central, devient caractéristique, constitutif de la procédure de common law, avec une omniscience du jury, et alors encore une fois, il faut Il faut éviter de projeter sur la common law notre conception de la distinction entre le droit et le fait. Et il faut observer que cette idée que le juge serait le maître du droit et le jury le maître des faits n'est jamais au fond qu'une approximation, une facilité de langage. Parce qu'en réalité, dans l'histoire de la common law, les choses ont toujours été plus compliquées. Et la distinction du fait et du droit a toujours été en réalité secondaire. D'autre part, cette omniscience du jury, c'est un peu une structure latente, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une espèce de potentiel du jury qui est ordinairement occulté par le fait que l'intervention du jury est encadrée par des règles de procédure extrêmement strictes. Et du coup, le jury est amené à trancher sur une specific issue, comme diraient les Anglais, qui ajoutent parfois « specific issue of fact », la distinction du fait et du droit apparaît, mais il n'est jamais amené à trancher que sur un problème précis. Et donc, cette sorte de vertu potentielle du jury n'apparaît pas. Mais il y a un certain nombre de circonstances dans lesquelles cette omniscience du jury est soudain réactivée. Et il me semble que la question du créationnisme américain est assez typiquement caractéristique de cette réactivation. Et pour ça, je vais revenir sur le procès du singe. Je vais revenir sur le procès du singe que Guy Archer a mentionné, mais qui est tout de même le point de départ de tout ce qui va suivre. Donc, effectivement, je rappelle plus ou moins ce qui a été dit. La loi du Tennessee interdit très formellement l'enseignement des théories darwiniennes. Un professeur de biologie, d'ailleurs lui-même guidé par des sociétés de libre pensée, décide de faire de la provocation et donc se fait accuser. Et puis il y a un grand procès théâtral qui oppose d'un côté Brian qui est donc le représentant ici de l'orthodoxie, donc il a une théorie fixiste, il est interdit d'enseigner du Darwin. Et d'un autre côté, l'avocat de la défense, qui est donc Darrow, et qui lui réussit un des coups les plus spectaculaires de toute l'histoire judiciaire américaine, donc, dont on parle toujours dans toutes les facultés de droit américaines, c'est qu'à un moment du procès, il cite son adversaire comme témoin. C'est-à-dire, il dit, mais finalement, vous, Brian, vous prétendez bien connaître la Bible, bon, eh bien, je vous cite comme témoin, je vous cite comme expert biblique. Est-ce que vous acceptez d'être cité comme expert biblique sur ce que la Bible a dit? Et Brian, qui est un peu acculé, accepte. Et alors, il se fait cuisiner sur la lecture littéral de la Bible. Est-ce que le monde a été créé en 7 jours? Est-ce que on y voyait clair avant qu'il y ait eu la lumière, etc. Donc en fait là, l'avocat de la défense s'amuse beaucoup. Citation, enfin, peut-être la plus célèbre, Monsieur Brian, la Bible dit que tous les êtres vivants qui n'avaient pas trouvé refuge sur l'arche de Noé furent noyés par le déluge. Le croyez-vous? Oui. Même les poissons? Bon, ce qui me paraît très intéressant dans ce procès, c'est qu'à l'arrière-plan, bon, il y a cette idée que même la Bible est justiciable. Il y a 12 types de bon sens et d'intelligence moyenne qui ont été choisis au hasard. Est-ce que ces 12-là vont avoir un doute raisonnable sur la création du monde en 7 jours ou sur la survie des seules espèces qui se trouvaient dans l'arche de Noé? Ce qui veut dire que Brian a été ridiculisé. Mais derrière Brian qui est ridiculisé, c'est toute la Bible qui est ridiculisée. Et toute la Bible qui est justiciable. Et on comprend très bien, évidemment, dans cette perspective-là, que les créationnistes n'aient pas voulu recommencer l'expérience. Et c'est ce que l'exposé de Gercher montrait très bien. Il y a des déplacements, donc on ne va plus du tout s'engager dans la même voie. Mais tous ces déplacements sont commandés par l'épisode initial. Hein, par l'épisode initial, c'est-à-dire par la bataille devant le jury, perdue en réalité par les créationnistes. Et alors ici, on a un déplacement, on a un phénomène de déplacement qui est double. Il y a un déplacement rhétorique qu'analyse Guy Archer, mais alors il y a aussi un déplacement processuel qui est caractéristique des cultures de common law, c'est-à-dire que la question qui doit normalement être déférée au jury peut en réalité être traitée par anticipation par le juge ordinaire. Dans la logique de common law, en fait, le juge prépare le trial, c'est-à-dire au sens étroit, donc l'intervention du jury qui interviendra peut-être mais qui n'interviendra pas, mais les frontières de la compétence du jury et de celle du juge ont évolué, on se déplace plutôt du jury vers le juge, il y a une absorption progressive au fil de l'histoire par le juge des questions qui sont normalement dévolues au jury et qui deviennent de plus en plus traitées à titre, si je puis dire, préjudiciel. Je terminerai sur la question de l'autre pour la comparaison avec les cultures de civil law. La question de l'autre, donc, qu'est-ce qu'on fait des Amérindiens, qu'est-ce qu'on fait des aborigènes d'Australie qu'on conquiert, sur lesquels on plante l'Union Jack, sur lesquels on affirme la souveraineté du roi d'Angleterre. Mais en fait, cette question fait très peu l'objet d'interventions législatives. Elle ne fait l'objet d'interventions législatives que très ponctuelles. Elle est finalement traitée en justice par le biais d'ailleurs d'une question assez étrange, mais la common law arrive aux débats fondamentaux par des biais étranges, c'est la question de la terre vide ou de la terre habitée. Est-ce que la Virginie, est-ce que l'Australie étaient, au moment de l'arrivée des premiers colons britanniques, étaient des terres vides, ce qui implique nécessairement qu'on dénie l'humanité de ceux qui y vivaient, ou est-ce que c'était des terres habitées? Et alors, nous savons que l'affaire a été réglée en dernier lieu pour l'Australie par le célèbre arrêt Mabo des années 80 qui rend aux aborigènes d'Australie leur humanité et qui rend à l'Australie le statut d'une terre habitée avant l'intervention des Britanniques. Mais cet arrêt-là vient à la suite d'une longue chaîne de précédents qui avaient décidé le contraire. Les questions de métaphysique, en fait, sont susceptibles d'être justiciables dans la tradition de common law.
Un tout grand merci.